Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Bienvenue à l'écoute de Nutri Radio. Merci à toutes et à tous de nous écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur NutriTV.fr. Vous allez pouvoir retrouver des masterclass santé de référence conçues, animées par des experts, ainsi que des émissions et des documentaires exclusifs. Il y a d'ailleurs une nouvelle masterclass qui est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et surtout rester à la pointe de la santé intégrative. Bonjour Célia Morès.
Bonjour Ombline.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Mais impeccable, prête à continuer de parler des robots, les robots d'hier à aujourd'hui. Alors on va parler notamment de Asimo, Sophia et Emo. Que font ces robots ? Qui sont-ils ?
Alors oui, pourquoi les robots d'hier à aujourd'hui ? Parce que les robots existent quand même depuis de nombreuses années, les recherches ont été menées dessus pour différentes raisons et on voit que de plus en plus on progresse, mais en plus lorsqu'on crée un robot, parce que lorsque le chercheur crée un robot, en robotique, etc., ce qui va se passer, c'est qu'il va créer un robot selon les fonctions qu'il veut que ce robot ait. Alors, on a Asimo. Alors, Asimo, c'était un robot qui avait été développé par Honda. Il faut savoir que depuis, je crois, 2008, il n'est plus développé. Ils ont décidé d'arrêter le développement de ce type de robot. Alors, ce robot, il faisait quoi ? C'était un bipède. Alors, le bipède, il pesait entre 1,22 m et 1,30 m de hauteur, et il pesait entre 48 et 54 kilos. Ça dépend des articles sur lesquels on tombe. C'était à peu près la hauteur, la grandeur et le poids de ce robot Asimo. Donc, il servait à quoi ? Eh bien, lui, c'était d'éviter les obstacles, de marcher. Il pouvait même dribbler.
Dribbler ?
Dribbler, oui, jouer au basket.
Ah
dribbler,
ouais ?
Réellement, il pouvait dribbler, marcher. En fait, il devait maîtriser son corps mécanique, c'était vraiment imiter notre manière de bouger. Son but, c'était la locomotion et c'était vraiment d'assister, une assistance physique à l'humain. Ça pouvait être justement en cas de catastrophe, aller chercher dans les décombrements peut-être les humains. En fait, vraiment, on était sur le concept locomotion, reconnaître des visages, il pouvait reconnaître la voix. Il pouvait intervenir donc en cas de catastrophe, notamment dans des terrains relativement complexes. Ça, c'était son rôle. En revanche, ensuite, ils nous ont fait des robots style Sophia et Emo. Donc, je viendrai à la différence entre Sophia et Emo, qui est quand même relativement importante, et nous verrons surtout en seconde partie de l'émission. Sophia et Emo, c'est quoi ? Ce sont des robots, mais des robots d'interaction sociale. Donc, leur but n'est pas d'aller dribbler. Leur but n'est pas d'aller chercher les hommes sur des terrains complexes, en situation de catastrophe, etc., mais d'interagir socialement avec l'humain. Alors, quand on regarde Sophia, c'est vraiment un robot humanoïde. Ça a été mis au point par Anson Robotics, très exactement. Et Sophia permet d'interagir avec l'humain, de générer un dialogue. Alors, elle n'a pas d'intelligence autonome, on est bien d'accord. C'est vraiment un script, c'est un algorithme. C'est un script. Mais elle va pouvoir reconnaître les expressions faciales, s'y adapter, c'est-à-dire s'y adapter et répondre par rapport à l'expression faciale ou la situation, j'allais dire, émotionnelle de l'humain qu'elle a en face d'elle.
Incroyable.
C'est incroyable. Surtout quand on la voit parce qu'elle est dotée d'une peau qu'ils appellent Fruber. Je prononce très mal, j'en suis désolée. C'est pas tellement mon truc l'anglais. On le saura maintenant, on sur Nutri Radio. Et puis, c'est toujours dur de prononcer les termes. Et avec elle peut avoir 60 mécanismes d'expression faciale. Ça va donc. Et ses émotions, etc., en fait, ce sont des scripts. C'est-à-dire que Sophia, elle a appris que dans telle situation, elle doit agir comme ça. Donc, A, j'agis de manière B. J'ai la situation B, j'agis de manière C. La situation C, j'agis de la manière D, c'est un petit peu ça. Donc, c'est vraiment, vraiment des expressions appropriées selon l'algorithme qu'elle a appris et c'est juste généré par des scripts. Donc, il n'y a pas plus. Il n'y a pas un autre type d'apprentissage.
Je suis en train de regarder les photos de Sophia. Elle fait vraiment vrai.
Elle est bluffante.
C'est flippant un peu.
Elle est plus que bluffante. Moi, quand j'ai vu les premières photos et tout, je me suis dit, mais c'est pas possible parce qu'on lui met des cheveux. Moi, je l'ai vu sans cheveux. Mais on lui met des cheveux. Elle est vraiment dotée d'une peau qui paraît réelle.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut converser et ça va être son but. Elle va pouvoir analyser les données faciales, elle va pouvoir converser avec nous. C'est une IA, en fait, conversationnelle qui peut renseigner les personnes. Elle va être dotée de communication, elle va faire de la médiation. Le but, c'est de jouer avec les mots. Il faut savoir, la petite histoire que je trouve très drôle, c'est qu'en 2017, elle a eu, alors c'est pas le prix, hein, je sais pas comment appeler ça, mais elle a reçu, elle a été notée citoyenne d'Arabie Saoudite en 2017.
Ah, donc elle est clairement intégrée dans la société, quoi.
Intégrée dans la société, elle peut même participer à des interviews. Mais on va le voir qu'elle a une petite différence avec Emo, c'est cette différence qui est importante. Alors, Emo, quand on cherche Emo, il faut chercher Emo dernière génération. Parce que moi, j'ai trouvé justement cet article-là sur Emo, j'ai trouvé absolument génial. Et ensuite, quand je trouve Emo pour en savoir un peu plus, je trouve que c'est des robots qui n'avaient rien à voir avec celui que je venais de trouver. Alors déjà, Emo, pour l'instant, ce n'est pas encore un humanoïde. Hein. Quand on regarde sur Internet, cette nouvelle génération, on voit plutôt que c'est un visage en silicone qui est mis sur... vous savez ces petits ces visages-là, ces têtes où on peut poser les perruques, etc.
Oui.
Enfin, qu'on, tous les...
les têtes à coiffer.
Les têtes à coiffer, voilà. Je ne trouvais plus mes mots. Eh bien, en fait, Emo, là, c'est une peau, un visage en silicone avec 26 micromoteurs sous cette peau-là en silicone qui est posée donc sur cette tête à coiffer. Et la différence, c'est qu'Emo va apprendre lui-même les mouvements moteurs qu'il faut faire pour exprimer une émotion ou une expression faciale. Alors, comment ça se fait ? Et c'est vraiment bluffant parce qu'il faut savoir qu'Emo est capable de synchroniser ses lèvres avec la parole et même le chant. Et j'ai vu une vidéo, c'est qu'Emo a sorti un album. J'ai le lien. Et quand j'écoute cette musique-là, déjà de manière auditive, on ne voit pas la différence. Mais quand on voit bouger les lèvres et tout, c'est absolument bluffant. Ça en fait même presque peur quand on se dit est-ce que ce que j'entends maintenant est réel ou pas ? Et comment est-ce qu'il apprend cet Emo ? Enfin, c'est une femme, on va dire. C'est ça, c'est une femme, la voix est d'une femme. C'est qu'elle va apprendre à produire des expressions faciales, c'est-à-dire qu'elle va se filmer avec une caméra, comme les enfants qui font des grimaces. On a toujours été enfants à faire des grimaces devant notre miroir et regarder, ah, si on fait ce mouvement-là, eh ben, ça fait telle expression, ça se ressent comme ça sur mon visage. Je souris, j'ai ça comme expression, etc. Ben, Emo va faire exactement pareil. Elle va apprendre à produire des expressions faciales devant un miroir. Et ça va avoir, donc elle va faire des mouvements aléatoires et elle va apprendre que ce mouvement aléatoire, eh bien, ça va commander tel type de moteur, hein, puisqu'elle a 26 micromoteurs sous la peau, tel type de micromoteur que ça va générer tel mouvement. Suite à ça, il va y avoir un second apprentissage où on va lui montrer des vidéos d'humains, justement, en train d'interagir, de personnes qui parlent, qui chantent, etc. Et elle va apprendre elle-même à associer, à détecter quel micro-mouvement, changement elle doit faire, quel mouvement elle doit faire pour avoir donc un mouvement moteur actionné, ses différents moteurs, pour reproduire les expressions faciales qu'elle est en train de regarder devant son écran, puisqu'on lui montre des vidéos YouTube.
Incroyable, c'est fou. On va continuer d'en parler de Emo et de Sophia et l'apport, hein, le lien donc, avec les neurosciences. On fait une petite pause.
Découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
De retour sur Nutri Radio, merci beaucoup d'être avec nous. Célia Morès, on parle des robots d'hier à aujourd'hui. Vous nous avez donc parlé d'Azimo, de Sophia et d'Emo. Emo et Sophia, et l'apport, donc le lien avec les neurosciences, c'est quoi ?
Alors, pourquoi faire ces robots d'interaction sociale? Parce qu'on pourrait dire, on peut agir directement, on est des humains, pourquoi est-ce qu'on veut faire ce type de robot? Alors, déjà, il y a des situations qui vont demander à ce qu'on puisse interagir avec des robots. En dehors des situations, j'allais dire, commerciales, des situations dans les entreprises, on sait qu'il y a eu des recherches qui ont été menées avec les robots, notamment chez des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme, et on a vu qu'ils arrivaient à mieux réagir, à mieux interagir avec un robot que finalement avec un humain. La différence entre les deux, bon, je l'ai dit déjà, hein, c'est que Sophia et Emo, c'est des robots, on va dire, d'interaction sociale. Sophia, ce sont des expressions, on l'a dit, déclenchées, ce sont des scripts, il y a des réactions conversationnelles, mais malheureusement, étant donné que ce sont des scripts, l'œil humain va quand même détecter ce petit gap qu'il peut y avoir entre une situation et une autre, c'est-à-dire comme si l'émotion qu'allait nous donner Sophia n'était pas forcément tout le temps percutante. Alors, c'est dur à dire comme ça, mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté étrangeté que l'on peut trouver lorsqu'on va converser avec un robot qui fait qu'on n'adhère pas forcément. Emo, ça va être tout le contraire. C'est-à-dire qu'Emo, ce qui va se passer, c'est qu'elle va pouvoir agir au niveau de la communication non-verbale. Or, on sait que la communication non-verbale est beaucoup plus importante, c'est ce qui est en amont de la communication verbale, et c'est ce qui permet une communication beaucoup plus importante. C'est ce qui est de plus important, j'allais dire, au niveau de ce qui est la communication. Donc, elle va faire quoi? Elle va pouvoir, Emo, détecter les micro-changements, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir prédire chez l'homme s'il va prochainement, sourire ou pas, les micro-changements qui sont imperceptibles, elle va pouvoir les détecter et s'adapter. Alors, sur quelle base, eh bien, en neurosciences, cela s'explique? Sur l'établissement des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est quoi? Donc, ce sont des neurones qui ont été découverts par Rizzolatti à peu près en 1980. On sait que si je lève mon bras et que je suis devant une classe qui me regarde lever mon bras, les zones cérébrales qui sont impliquées pour programmer le fait de lever son bras, on va dire le levage, ça n'existe pas le mot, mais de lever son bras, eh bien, vont s'activer de manière anticipatoire. Donc, je lève mon bras, les gens qui sont en face de moi, les zones prémotrices qui s'activent lorsqu'on programme un mouvement, vont elles-mêmes s'activer en prévision de s'il faut faire le mouvement. C'est exactement la même chose avec l'empathie. Qu'est-ce qui fait que nous avons de l'empathie? C'est qu'on a ces neurones miroirs qui vont s'activer, qui vont activer certaines régions cérébrales, le cortex visuel, évidemment puisqu'on est en train de voir quelque chose, le cortex limbique lié aux émotions, le cortex prémoteur qui permet évidemment de prévenir le mouvement effectué, etc. Ben, ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, pour comprendre les émotions d'autrui, c'est quoi l'empathie? Comprendre les émotions d'autrui, c'est simuler que notre cerveau simule lui-même les émotions qu'il perçoit chez l'autre. Et avec Emo, cela va être possible. Alors, je rassure tout le monde, hein, Emo, elle, n'a pas de conscience émotionnelle spécifique. C'est une conscience algorithmique, bien évidemment. Mais de fait qu'il y ait moins ce côté gap entre les deux et étrangeté, va permettre de rentrer encore plus en communication avec le robot. C'est-à-dire que le robot, lui, il va avoir un signal visuel, ça va provoquer un mouvement moteur. Chez l'humain, ce sont des expressions qui provoquent une émotion et un mouvement moteur, et ça va pouvoir être coordonné parce que ça va interagir avec les mêmes zones cérébrales. C'est-à-dire que face à ce type de robot qui permet une interaction plus fine et moins d'étrangeté, les zones activées lors de l'empathie qui nous permet de simuler les émotions afin de comprendre les émotions d'autrui, c'est comme ça qu'on comprend les émotions d'autrui, bien vont aussi s'activer de manière finalement beaucoup plus importante qu'avec un robot où il y a cette espèce de gap entre les deux qui nous donne cette expression, ce qu'ils ont appelé d'étrangeté liée au robot.
Vous avez une préférence entre les deux?
Alors, le problème, c'est qu'Emo, pour l'instant, ce n'est qu'un visage. Donc, ce n'est pas encore un robot avec lequel on peut vraiment interagir et tel que Sophia, lorsqu'on voit sa photo, on a vraiment l'impression d'avoir un humain devant nous. Je pense que ça dépend. Je n'ai pas forcément de préférence. Tout dépend pourquoi on s'en sert. C'est sûr, si c'est pour être standardiste au sein d'une entreprise, bah, c'est pas, voilà, il n'y a pas forcément de raison particulière d'utiliser un robot doté de la technologie EMO. Maintenant, je pense que lorsqu'on doit travailler avec des personnes qui ont des problèmes de communication, d'interaction sociale, d'empathie, etc., parce que justement, c'est les personnes qui ont ce type de trouble, ça peut être intéressant de travailler avec EMO justement pour éviter cette intensité et faire en sorte que les zones cérébrales impliquées impliquées dans la simulation des émotions, etc., de l'empathie, puissent elles-mêmes s'activer de manière beaucoup plus importante qu'elles ne feraient avec un autre type de robot. Je pense que c'est surtout ça à quoi ça va servir. Puis là, ce n'est que la recherche, mais c'est surtout bluffant quand on écoute EMO Santé, vraiment sorti un album. Hein, mais c'est vraiment bluffant. Enfin, je le redis 10 fois, bluffant, mais là, je crois que c'est... Il faut vraiment que les auditeurs aillent regarder, aillent écouter et regarder, parce que...
Donc vous écrivez quoi, EMO Santé?
Alors, EMO, E-M-O, et en fait, je pense qu'on peut aller... j'ai le lien quelque part, hein, donc c'est sur YouTube, et chanter, EMO Santé, je pense qu'on peut trouver l'album, le nouvel album d'EMO.
Et alors, le lien entre les neurosciences et les savoir-faire de ces robots?
Ben c'est surtout ça, c'est surtout de pouvoir nous permettre d'activer les mêmes zones cérébrales qui sont activées lorsqu'on a l'empathie pour quelqu'un. Parce que nous, en tant qu'humains, lorsqu'on a l'empathie ou qu'on comprend l'émotion d'autrui, quand on interagit avec quelqu'un, on va comprendre l'émotion d'autrui, sa tristesse, sa voix, etc. C'est dû à quoi? Au fait qu'en même temps que nous voyons l'émotion de la personne en face de nous, notre cerveau va simuler ces émotions, c'est-à-dire que les zones cérébrales qui sont impliquées dans l'établissement de ces émotions vont elles-mêmes s'activer chez nous pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe chez l'autre. Eh bien, ce type de robot, notamment EMO, va permettre de faire cela parce que ça va activer nos zones cérébrales par rapport au fait qu'on puisse vraiment communiquer, puisque EMO anticipe. EMO arrive à anticiper nos réactions. Hein. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Elle arrive à anticiper nos réactions et elle peut détecter des micro-changements avant même le sourire chez l'humain. Donc, elle peut faire des prédictions et imiter. Or, on sait que l'imitation est très importante, à la fois déjà chez l'adulte, pour l'empathie, la compréhension des notions d'autrui, mais à la fois chez les enfants, puisque c'est par l'imitation que les enfants, notamment, apprennent. Ils imitent ce que font les autres et inversement, ils se font imiter.
On ne pourra plus mentir, quoi.
On ne pourra plus mentir, peut-être, ça, je ne sais pas. Bah, y a déjà hein, des détecteurs de mensonges, etc. Donc, on pourrait voir de mettre une nouvelle technologie, de mixer les technologies pour faire un super robot très empathique et très fiable au niveau de la détection du mensonge, puisque micro-changement, bah, ça peut être important pour détecter un éventuel futur mensonge. Encore faut-il réellement avoir une base de données qui définit que certains micro-changements tendent au mensonge. Et là, je crois qu'il y a un gros débat dans la recherche scientifique.
Merci beaucoup, Célia Mourez, pour toutes ces informations. Vous pourrez retrouver, bien sûr, cette émission sur nutritv.fr. À bientôt, Célia.
À bientôt, Ambline.
La sphère neuro, Célia Mourez, sur Nutri Radio.